Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, je vais reparler d'une ancienne histoire en fait, parce que il y a des nouveaux trucs à dire du coup. Donc je fais un petit récap, enfin je vais pas recommencer l'histoire du début jusqu'à la fin. On va reparler des meurtres de Delphi, donc ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à aller écouter mon podcast qui est sur les meurtres du sentier de Delphi. Il s'agit des meurtres de Abigail Williams et de Liberty German. Donc il s'agit en réalité de mon podcast saison 2, épisode 43 précisément. Du coup, si vous voulez la référence, en gros. Donc voilà, si vous voulez... Enfin, si vous ne connaissez pas l'histoire et que vous voulez en savoir plus avant d'écouter, en fait, ce podcast-là, je vous invite, du coup, à aller écouter mon podcast, l'épisode 43, du coup, de la saison 2 de mon podcast, du coup. Donc on va reparler de ces meurtres-là parce qu'en fait, il se passe, en fait, plein de trucs. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je prends note et je suis là, je me dis, mais en fait, les choses bougent et il y a plein de trucs bizarres, en fait, dans cette histoire. Donc je ne vais pas tarder, on va partir dans l'histoire, rentrons dans l'histoire. En gros, le 13 février 2017, Abigail et Liberty, du coup, deux amies d'enfance, elles ont décidé d'aller se balader près du pont de Monon, donc c'est sur le sentier de Delphi en quelque sorte. Donc la sœur de l'une d'elles les a déposées près du sentier et au retour, c'est le papa de l'une d'elles qui était censé en fait les récupérer, du coup au retour pour les ramener à la maison. Les filles, elles avaient des téléphones, hein, donc on pouvait les joindre. Le problème, c'est qu'au retour, le père est arrivé sur le lieu de rendez-vous où il devait récupérer les deux jeunes filles et en fait il y avait zéro trace des filles, donc il a attendu, il les a appelées, enfin il n'y avait pas de nouvelles, aucune nouvelle, donc il a contacté de la famille au cas où les filles auraient peut-être contacté quelqu'un pour venir les chercher, enfin, et quand ils se sont rendus compte que en fait personne ne savait où étaient les filles, ils ont décidé de déclarer la disparition des filles. Donc ils ont passé toute la soirée du 13 février à les chercher jusqu'au 14 février le lendemain, 22 heures après leur disparition, le cadavre des deux jeunes filles ont été retrouvés pas loin du sentier de Delphi. Donc après la découverte des cadavres des jeunes filles, une enquête a débuté. Et au début de l'enquête, ils vont retrouver un snap que l'une d'elles a fait de l'autre. En gros, l'une d'elles a filmé l'autre en train de marcher sur le pont du coup. Et sur ce snap, on voit une personne. En gros, c'est un homme, un monsieur. On voit, mais en fait, on n'arrive pas à distinguer vraiment qui c'est en réalité. Donc à partir de ça, enfin je ne sais pas s'ils se sont focalisés uniquement sur ce snap là ou s'ils ont cherché des témoins en gros, mais en tout cas ils ont sorti un premier sketch, donc une première image, du coup un dessin qui était censé être le suspect principal dans le meurtre des filles, sauf que plus tard dans l'enquête ils vont ressortir un autre sketch, un autre dessin du coup qui représentait encore ce même suspect principal, sauf que en fait les deux images n'ont rien à voir l'une avec l'autre, rien du tout. Mais littéralement rien. Sur la première image, la personne, enfin le dessin, ça représentait une personne jeune, un peu plus, enfin un visage un peu plus ferme et tout ça. Sur la deuxième image, ça représentait un homme plus vieux, un visage, enfin relâché, mou. En gros, les deux dessins n'avaient rien à voir. Donc, dès le début, je me suis posé la question, en gros, what is happening here? Enfin, je ne comprends pas. Donc, voilà, en gros, ce qui s'est passé jusqu'à ce que on atterrisse en octobre 2022. Parce que après, on n'a pas eu d'infos. Ils n'ont donné aucune info sur l'enquête. Je ne sais même pas s'ils communiquaient avec les parents des filles. Je sais pas. En gros, ils ont fait leur enquête dans leur coin. Ils ont, jusqu'en octobre 2022, où ils ont obtenu un mandat de perquisition pour aller perquisitionner le domicile d'un suspect. Comment cette personne est devenue suspecte? I don't know. Mais en tout cas, apparemment, ils avaient des preuves circonstancielles contre cette personne. Ils ont retrouvé, du coup, sur le lieu des crimes, des douilles de balles, en quelque sorte. Et donc, quand ils ont perquisitionné le domicile de cette personne, ils ont retrouvé des armes à feu. Ils ont fait tout ce qui est balistique, etc. Et ils ont pu relier, en fait, l'arme à feu de ce monsieur aux douilles qu'ils avaient retrouvées sur les lieux des crimes. Mais moi, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait... Enfin, il aurait pu venir sur le sentier à n'importe quel moment, tirer à n'importe quel moment. Mais en gros, comme ils ont dit qu'ils avaient d'autres preuves circonstancielles contre lui, je me suis dit, bon, ok. On nous a dit que c'est cette personne, vu qu'ils ont relié, en fait, les douilles à son arme, qu'ils ont procédé à son arrestation et on nous l'a présenté comme le meurtrier de Abigail et de Libby. Donc cette personne qu'ils ont arrêtée, il s'agissait tout simplement de Richard Allen, un monsieur qui a 50 ans. Aujourd'hui, donc, on l'a arrêté, on nous a dit que c'est lui, donc ils ont entamé tout ce qui est procédure, etc. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que généralement, quand c'est des affaires qui sont super médiatisées comme ça, le processus est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, le procès arrive plus vite. Enfin, les procédures sont vraiment... tout est rapide. Tout est super rapide. Prenez l'exemple de Brian Koperger, de l'affaire Koperger tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez, les meurtres ont eu lieu que, l'année dernière. Et on est déjà, en gros, dans un processus presque de procès. Donc, franchement, quand les affaires sont super médiatisées comme ça, le processus est tout simplement beaucoup plus rapide. Alors, le truc, c'est que, en fait, si on a des preuves contre lui, l'affaire doit être réglée. On attend juste que un jury le déclare coupable et c'est bon. Well, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que il y a des trucs qui sortent depuis quelques mois et franchement, plus j'attendais de faire ce update, plus il y avait de trucs qui sortaient. C'est n'importe quoi cette histoire. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe qui mérite que je fasse un update aujourd'hui? C'est parce que on est en plein dans le processus judiciaire, du coup, du pré-procès, de ce qui va, ce qui se passe généralement avant le procès, et il se passe beaucoup de choses. On va d'abord partir dès le début de ce truc, au premier jour où Richard Allen est arrivé devant le juge et a dit ce qu'il plaidait en quelque sorte, sa première apparition devant le juge. Donc, dès ce jour-là, dès le début du processus judiciaire, ces deux avocats qu'on lui avait collés, du coup, ils ont demandé à ce que le procès et tout le processus judiciaire qui allait conduire au procès soit filmé. Rien que là, je me suis dit waouh, il se passe quelque chose. C'est ouais, parce que de l'autre côté, on a Brian Koberger, il fait ses trucs en douce, il y a pas de caméra, rien du tout, enfin, on a que des détails qui sortent. Là, il voulait que le truc soit filmé. Donc génial, les caméras ont fait leur entrée du coup dans la salle, je sais pas, de justice en quelque sorte, et Richard Allen fait son entrée du coup, pour arriver devant le juge, etc. Et puis là, tout le monde est en mode what the fuck. En gros, je sais pas, allez sur internet, tapez Richard Allen, ajoutez Delphi, du coup Delphi Murders, ou juste Delphi, comme vous voulez. Vous verrez une photo de avant l'arrestation, en gros du jour de son arrestation, et une photo de après, en gros du jour ou de sa première apparition devant le juge. Tout le monde était en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le gars a littéralement perdu... Franchement, je dirais au moins 20 kilos. Au moins 20 kilos. Donc, peut-être que la prison, ça ne lui a pas réussi. Enfin, bon, c'est pas... La prison, c'est pas qu'une pièce. Donc, peut-être que ça lui a pas réussi, etc. Mais c'était bizarre. Après, pour moi, c'était pas bizarre au point de penser à des trucs, etc. Donc, jusque-là, enfin, je me disais, bon, il a perdu du poids, mais ok, normal. Et je vais changer d'avis à partir du moment où ses avocats vont sortir un document de 136 pages où il y a des rapports d'experts indépendants qui ont été amenés à travailler du coup sur le dossier, parce qu'ils voulaient évidemment des avis neutres en quelque sorte. Donc ils ont sorti un document de 136 pages et c'est là que je me suis dit, attendez, là ça va pas être de la blague, là ça va pas rigoler du tout. Donc bref, en gros, les premières pages de ce document de 136 pages vont expliquer le fait que le mandat de perquisition qui a permis de relier du coup les douilles qui ont été retrouvées sur la scène du crime à l'arme de Richard Allen, en fait, ce mandat de perquisition a été obtenu tout simplement illégalement. Illégalement dans quel sens? Apparemment, la personne, je ne sais pas qui c'était, est-ce que c'était le procureur, est-ce que c'était un flic, en tout cas, la personne qui est allée voir le juge pour demander ce mandat de perquisition a soit menti sur des faits au juge, soit gardé des informations qui étaient nécessaires que le juge sache, du coup, afin de délivrer son mandat de perquisition en toute impunité. impartialité ou en toute... Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, là, dès le début, tu te rends compte que le jeu était biaisé. Le document ne s'arrête pas là. Le document va ensuite relater les détails, en fait, de la scène du crime, où on va retrouver des symboles qui ont été dessinés sur des arbres. Du coup, enfin, les arbres qui étaient près des cadavres des filles. Et ces symboles ont été dessinés avec le sang de Libby. Et en fait, le document va relier, en fait, ces symboles à un culte, du coup. En gros, ce culte, il loue un certain dieu, apparemment, il s'appelle Odin. Et il y a des gens qui pratiquent ce culte dans la région. Du coup, ils exposent la théorie que, en fait, c'était un sacrifice parce que les filles ont été aussi mises, en fait, dans des positions qui représentaient des symboles ou des trucs qui étaient liés au culte. Donc, en gros, enfin, quand tu rassembles tout ça, tu te dis, c'est plus lié à un culte qu'à une seule personne. Ça, c'est le document qui le dit, ok? Le document va aussi partir, en fait, de l'avis des experts, du coup, et va émettre la théorie que il n'y a pas qu'une seule personne impliquée dans le meurtre des filles. Supposons que Richard Allen était seul ce jour-là, ok? Qu'il avait une arme à feu. Il aurait pu maîtriser les deux filles avec les armes à feu. Mais tout ce qui a suivi, le dessin des symboles, la manière dont les corps étaient... Enfin, c'était tout ce qui a suivi, en fait, même les meurtres, les experts vont dire que il y a eu plus d'une personne pour commettre ces crimes. Donc, en gros, même si, supposons que c'est Richard Allen, il avait forcément un complice. Donc, si c'est Richard Allen... Ok, mais du coup, pourquoi vous n'êtes pas dehors là en train de chercher son complice? Enfin, ça n'a aucun sens. Pour moi, je pense, comme les experts l'ont dit, si c'est vraiment Richard qui a commis ces crimes, il a forcément un complice. Donc, si c'est Richard, si vous pensez fortement que c'est Richard, cherchez aussi son complice parce que il a forcément un complice. Donc, bref. Le truc, c'est que moi, je ne crois pas, en fait, je ne crois même plus à la théorie du fait que c'est Richard. Je crois plus au fait que à la théorie, du coup, que c'est un culte parce que un rapport du FBI sur l'affaire, du coup, va sortir. Et d'après ce rapport, il y a eu, en fait, cette théorie, en fait, du fait que ce soit un culte qui a été fortement soulevé et qui était vraiment c'était plus qu'une théorie en quelque sorte. Il y a eu même des noms de plusieurs suspects en quelque sorte. Enfin, en gros, c'était plus qu'une théorie, c'était comme une limite, c'était une vraie piste et les policiers ont choisi en fait d'ignorer ça, tout simplement. Ils ont choisi de mettre ça de côté et de se dire, ils n'ont même pas en fait mis des gens en garde à vue, interrogés ou quoi. Ils ont rien fait de cela, ils se sont dit, no, we don't care, c'est Richard, on va tout faire pour que ce soit Richard. On va mentir au juge pour obtenir un mandat de perquisition. Peut-être même aller chercher, des douilles. Je sais pas, parce que s'ils ont menti pour obtenir un mandat de perquisition, à quel autre niveau ils ont menti? We don't know. Et ça, quand j'ai lu ce rapport, enfin, cette partie-là, du coup, du rapport du FBI, tout est sur Internet, hein, vous pouvez aller chercher. Quand j'ai lu cette partie-là, je me suis dit, what the shit? Ils ont choisi, en fait, de mettre ça de côté. Ils se sont dit en mode, ouais, bon, c'est pas, c'est peut-être eux, mais bon, voilà, nous, on pense que c'est lui, donc c'est lui. Like, waouh. Si c'est comme ça que la police fonctionne, je suis... waouh. Revenons du coup au rapport que les avocats de Richard ont présenté, du coup, devant la cour. Dans ce rapport, ils ont présenté, enfin, ils ont expliqué tout simplement que le culte, le fameux culte dont on parle, du coup, il y a des gardes de la prison où est incarcéré Richard qui sont en fait, qui font partie de ce culte. Des gardes de prison qui font partie de ce culte. Et comment les avocats ont su, en quelque sorte, pour du coup le déterminer? Bah, à partir du moment où on a incarcéré Richard Allen dans cette prison-là, ces gardes-là, pas tous, hein, ceux qui font partie du culte, tous portent des pins in Odin we trust. Genre, en Odin on croit. Le fameux dieu du culte dont on parle, voilà. Et à ça, ils vont relier le fait que Richard ait perdu en fait tout ce poids parce que selon ses avocats, il serait maltraité en prison. Donc, pour se justifier, la prosecution va dire que c'est Richard lui-même qui refuse de manger, qui boit à peine, qui refuse de dormir. Mais selon ses avocats, dans ce rapport qu'ils ont fourni du coup à la cour, rapport qui a été attesté par des experts, donc je pense qu'ils ont dû faire ramener des psychiatres ou des psychologues pour discuter avec Allen. Enfin, je pense pas qu'ils sont partis de zéro. Ils se sont dit bon, on va inventer ça. En gros, d'après ce rapport là, Richard serait maltraité en prison. Par qui? Je ne sais pas. Je ne veux même pas faire d'hypothèse. Je vous laisse à votre imagination. Mais en gros, voilà où on en est. Cette histoire est juste waouh. Et quand on se dit qu'il y en a plus, que c'est terminé, bah non, il y en a encore. Il y en a encore parce qu'il y a quelques semaines, du coup, des photos, les photos des cadavres des deux filles, de Abby et de Libby, ont été leakées. Du coup, ça n'a pas été partagé en mode sur Twitter, en mode tout le monde regardait. Ça a été envoyé à des grands, enfin, à des grands podcasters ou à des grandes chaînes de médias, etc. Et en gros, c'est en quelque sorte illégal, en fait. Et la police va remonter, du coup, à la personne qui a partagé ces photos et ils vont découvrir que c'est un ancien employé du cabinet d'avocat, enfin, du cabinet d'avocat où travaillent les deux avocats de Richard Allen. Donc, un ancien employé du cabinet des avocats de Allen a partagé ces photos. Franchement, je comprends pas le but. Si c'est vraiment lui qui a fait ça, je comprends pas le but. Mais en gros, avec ça, du coup, comme élément, ça a permis à la prosecution, en fait, de faire une motion de demander à ce que les deux avocats de Richard, si vous entendez du bruit, c'est mes lapins, don't worry, personne ne se fait torturer chez moi. Donc en gros, ce coup-là, ça a permis, en fait, à la prosecution pour demander, en fait, au juge que, bah, on vire, en fait, les avocats de Allen. Donc le juge a demandé aux avocats, tout simplement, en gros, c'est soit vous vous retirez, soit je vous vire du dossier. Donc, les deux avocats se sont retirés du dossier. Et c'est là que je me suis dit, ils sont en train de couvrir quelque chose. Ils se sont rendu compte que ces deux mecs, ils sont en train de faire un putain de bon boulot et ils ont décidé de leur faire ce coup-là, tout simplement pour couvrir, continuer à couvrir ce qu'ils sont en train de couvrir. Je suis désolée, j'arrive plus à croire, en fait, que c'est... Je ne crois plus. Pour moi, c'est dans ma tête, c'est carré, c'est pas Allen qui a assassiné les filles. J'aimerais beaucoup savoir ce que pensent, en fait, les parents des deux filles, mais dans ma tête et comme dans la tête de la majorité d'internet en ce moment, c'est pas Allen. En limite, je sais pas, je suis pas complotiste, hein, absolument pas, mais franchement, je pense que on est 99% sur internet à être complotiste sur ce coup-là, parce que après avoir viré, du coup, les avocats de Allen, les deux avocats qui ont été choisis par la juge pour remplacer, du coup, ceux qu'elle a virés, l'un d'eux est pote sur Facebook avec la juge. Je vous jure, cette histoire, mais... Quoi ? Non, mais... Quand je travaillais cette histoire, je me disais... Parce que, en fait, j'ai dû mettre les éléments pour essayer d'ordonner le truc. Et quand je faisais le plan, je me suis... Oh là là, mais quelle histoire ! Mais... Non, non, il est pote carrément avec la juge sur Facebook, je vous jure. Allez sur Internet, vous verrez, littéralement, il est pote avec la juge sur Facebook. Et ces gens-là veulent nous faire avaler, en fait, que c'est Richard Allen qui a commis ces crimes. Quand on voit littéralement que les crimes sont liés à un culte, quand, en fait, ça crie limite culte, du coup, vous nous dites que c'est Allen. Ok, supposons que ce soit Allen. Mais si c'est Allen, les experts nous disent que ce n'est pas Allen seul. Donc forcément, il a un complice. Pourquoi vous ne cherchez pas ce complice? Bah, vous nous dites, c'est Allen, on s'en fout. On s'en fout, c'est Allen. Les douilles qui ont été retrouvées sur la scène du crime, pour moi, il aurait pu tirer ses balles à n'importe quel moment. Quelqu'un aurait pu les récupérer pour le piéger. Enfin, le mandat de perquisition qui a été obtenu illégalement, cette histoire, c'est une malédiction qui continue en malédiction, c'est pas possible. Les gardes de prison qui font partie du culte auquel on a lié littéralement ce meurtre, même le FBI a lié littéralement les meurtres à ce culte-là. Il y a des gardes de prison qui font partie de ce culte-là, du coup, et qui portent, en gros, tranquillement, in Odin we trust. Voilà, enfin, je sais pas si c'est pour intimider Allen, parce qu'il voit que, en fait, toutes les autres choses qu'ils lui font ne l'ont pas brisé au point, en fait, de ne plus vouloir se défendre. Et cette fameuse personne, c'est ce fameux ancien employé qui a leaké les photos, franchement, je trouve ça un peu trop convenient. C'est ancien employé. Si moi j'étais, je pense que ces deux avocats, s'ils ont fait ce bon boulot au point de mettre le doute raisonnable dans la tête de la majorité d'internet, je pense pas qu'ils soient assez bêtes pour se dire, bon, on va choisir une personne qu'on connaît pour faire leaker les photos. Et dans quel but, en fait? C'est quoi le but, du coup? Franchement, quand j'ai appris ça il y a quelques semaines, je me suis dit, non, avec tout ce que je sais déjà sur cette affaire qui se passe depuis le début, je pense que, sincèrement, hein, je pense que ce coup-là de faire leaker les photos par un de leurs proches, c'est un coup de la prosecution. Juste pour faire virer ces deux avocats-là et pour coller des avocats qui seront là pour dire oui, 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 oui. Comme ça, on dit que c'est Allen, on le fout en tôle et puis voilà, on parle plus de culte. Parce que là, en fait, comment vous voulez qu'on ne croit plus à la théorie du culte? Comment vous voulez qu'on ne croit plus à la théorie du complot alors que vous faites tout, en fait, pour nous mettre les preuves sous le nez que vous faites un complot littéralement pour mettre un innocent en prison? Je ne sais pas, mais... j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Du coup, je sais pas quoi penser d'autre, en fait. Je me dis, alors, peut-être qu'il y a des gens haut placés dans la police, au niveau de la justice, qui sont dans le culte, vu qu'on sait qu'il y a des gardes de prison qui sont dans ce culte, du coup. Peut-être qu'il y a des gens un peu plus haut placés qui sont dans ce culte et qui savent ce qui s'est passé, en quelque sorte, et qui essayent, en fait, tout simplement de couvrir les traces de leur culte. Ou soit il y a des gens qui sont bien placés dans la société, qui arrivent à diriger l'enquête depuis leur palace. Mais en tout cas, à un moment donné dans cette histoire, ils essayent de couvrir quelque chose. Alors, peut-être que... je sais pas à quel niveau, mais à un niveau dans cette histoire, le truc n'a aucun sens, il y a plus de logique. Enfin, non. Parce que si, en fait, on retire les preuves obtenues pendant le mandat de perquisition, Allen est libre, en fait. Franchement, leur dossier est vide. Le dossier, donc, je sais pas. Peut-être qu'ils essayent de tout faire, en fait, pour qu'ils restent derrière les barreaux. Mais en tout cas, si on retire cette preuve-là, le dossier, il est fichu. Bref, c'est une histoire à rendre fou, franchement. C'est une histoire... limite, c'est même pas je sais plus quoi penser. Je sais quoi penser. Je pense dans ma tête qu'ils essayent de couvrir quelque chose. Pour moi, en fait, les avocats de Allen, ils ont réussi à mettre un doute raisonnable. Je sais pas si c'est ça, en fait, ce qu'on ressent quand on a un jury et qu'on réussit à te mettre un doute raisonnable dans la tête. Mais en gros, si c'est le cas, les deux anciens avocats de Allen, ils ont réussi. Ils ont mis un doute raisonnable dans la tête de tout le monde. Je lis des tweets, par exemple, des gens qui habitent du coup vraiment le coin et tout, mais même des gens du coin, quand je dis la plupart des gens du coin, ne pensent pas que c'est Allen. Je ne dis pas que c'est le culte en mode ils se sont tous rassemblés dans la forêt, enfin dans le parc et ils ont assassiné les filles en mode nanana. Mais je pense que ça doit être une ou deux personnes dégénérées de leur culte qui ont fait ça et que bah du coup ils essayent en fait tout simplement de couvrir les traces de leur culte ou je sais pas. Je ne dis pas qu'ils se sont tous rassemblés en mode non, je pense pas. Mais cette histoire, on en revient toujours à ce culte. Et franchement, si c'est Allen, si c'est vraiment Allen et que ça n'a rien à voir avec le culte, bah il aura dupé 99% des gens, franchement. Je sais pas comment, mais en gros, lui, ses avocats, ils auront dupé 99% des gens. Mais à un moment donné, l'un de ses avocats, quand les journalistes vont lui demander de réagir par rapport au fait que il a dû en fait se retirer du dossier, il les a regardés, il leur a dit: vous les journalistes, il est temps que vous commenciez vraiment à faire un boulot d'investigation. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit: non, il y a quelque chose, non, il y a vraiment quelque chose qu'on essaie de nous cacher dans cette histoire. Mais bon, whatever, cette histoire est juste complètement dingue et je pense que bah les semaines à venir, on va en apprendre davantage, forcément. Et je vous tiendrai au courant s'il y a des avancées majeures dans l'affaire, s'il y a des... Voilà. Don't worry about it, je vous dirai tout. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé en fait de ce podcast. Est-ce que la théorie du culte vous semble aussi folle que ça? Ou est-ce que vous pensez que c'est forcément Allen? Franchement, je sais plus quoi penser, mais je sais que c'est plus d'une personne qui a commis en fait les meurtres des filles. Je pense fortement que c'est plus d'une personne et que au moins l'une de ces personnes est liée à un moment donné au culte dont on est en train de parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais en rester là parce que le podcast est assez long quand même. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau podcast. J'espère que celui-là vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.